de Polysécur épisode PME. Je suis accompagné d'Emeline.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien. Et toi-même?
Très bien aussi. Aujourd'hui, on va aborder la fraude sur Marketplace. Ce vecteur-là est de plus en plus utilisé constant qu'avec le confinement, on a eu une adoption peut-être accélérée pour bien des gens de cette plateforme-là pour vendre et ou en tout cas acheter des choses. Malheureusement, les malveillants s'y ont intéressé également. Donc, une panoplie de choses autour de ça qui sont intéressantes à aborder justement, puis surtout proche des fêtes comme ça, probablement que plein de gens vont justement l'aborder encore plus, de regarder ça ensemble.
Oui, exact. Je trouve que c'est des choses qui arrivent effectivement de plus en plus. On a été confinés, donc on était plus à la maison. Moi, juste première anecdote, durant le Covid, ça a un rapport un peu avec Marketplace, mais petite anecdote. Moi, j'ai un groupe que j'ai parti il y a comme une dizaine d'années sur Facebook, un groupe de vente de livres usagés. Parce que je me dis, hey, à Montréal, il n'y a pas de vente de livres, il n'y a pas de groupe Facebook dans ce sens-là. Fait que let's go, je vais... Et là, pendant le Covid, je m'étais fait chicaner par des gens qui m'avaient écrit. On avait écrit à l'administrateur en disant « Mais là, c'est Covid, c'est confinement, puis là, vous permettez encore les échanges de livres, c'est pas Covid-friendly, là, là, là. » J'ai comme « Ah, ouais, j'avais pas pensé à ça. » Donc, bref, mais avec l'arrivée, en plus de Marketplace, avant, les ventes se faisaient beaucoup, beaucoup à travers des groupes, mais avec l'arrivée de Marketplace et la popularité des ventes entre particuliers, il y a vraiment eu une hausse des cas de fraude, de tentatives de fraude aussi. Il y a eu une hausse de tout ce type d'escroquerie et je voulais qu'on regarde un petit peu à la fois l'architecture de ce type de fraude-là, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, puis de vous donner aussi certains exemples qui vont vous être parlants, certains plus parlants que d'autres. Et ça, c'est à la fois quand on achète, mais aussi quand on vend. Tu sais, on peut penser que c'est juste quand on achète qu'on peut potentiellement être victime parce qu'on envoie des sous à quelqu'un qui est malveillant. Mais quand on vend aussi, il y a tout plein de choses qui arrivent. Donc, si vous vendez, vous avez mis un article en vente, vous avez un potentiel acheteur intéressé, mais est-ce que t'es souvent cette personne, elle est trop occupée. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé toi de ton côté, mais la personne est trop occupée, elle peut pas se déplacer, c'est vraiment typique. Donc là, il ou elle a trouvé la solution. Elle va envoyer un facteur UPS ou peu importe, il y en a d'autres noms qui me viennent pas en tête vite comme ça, pour faire ramasser le colis et remettre l'argent comptant par la même occasion. Puis là, tu dis, ben, où est le mal? Il y a vraiment un facteur qui va venir et qui va récupérer les choses et je vais avoir mon argent. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as déjà été témoin et quelle serait la recommandation que tu donnerais à quelqu'un qui vit ça en ce moment?
Moi, je ne consomme pas ce genre de service-là pour de multiples raisons. Autant je ne vends pas que je n'achète pas là-dessus, mais dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui le font. Oui, j'ai entendu parler de ce cas spécifique-là. C'est toujours difficile, justement, quand on fait un échange comme ça, puis ça, il y a beaucoup de cas répertoriés, justement, connus. Ce courrier-là, comment on peut savoir que c'est vraiment quelqu'un de la compagnie en question qui est là? Comment on peut savoir ce genre de choses-là? Le cas du PS, c'est peut-être un peu plus facile parce qu'on a des camions très distinctifs qui sont très, très coûteux à imiter, si on veut, parce que c'est toujours ça qu'on voit. Comment le coût d'imitation, mais l'habit lui-même n'est pas coûteux à imiter. Donc, il faut voir comme ça. Donc, on a des symboles dans lesquels on doit regarder qui sont plus difficiles à forger, à être inexacts ou se prendre pour un nom. Donc, c'est une stratégie de regarder ce genre de choses-là, mais cette façon-là moi, je suis déjà pas confortable avec l'idée que quelqu'un qui n'est pas l'acheteur se présente. Puis là, dans ce que tu dis, n'est pas dit, comment l'argent va être échangé? Est-ce que c'est un chèque qui va être transmis? Qu'est-ce qui encadre le dit échange? Parce que c'est un chèque, c'est très facile qu'il n'y ait pas de fonds ou que ce soit un faux. Puis c'est nous qui, malheureusement, va être piégés là-dedans puis on n'aura plus aucun recours parce que l'objet a disparu puis probablement que l'adresse ou la personne devient inexistante. Fait que donc, à ce moment-là, très difficile d'avoir des recours pour récupérer l'argent ou le bien dans lequel on a... c'est très malaisant.
Il y a tellement de différentes finalités. Tu donnais des très très bons exemples en lien avec le chèque, ça peut être aussi des virements Interac, puis des virements Interac. Tu sais, des fois, enfin, même souvent, il y a des gens qui font beaucoup confiance aux virements Interac, ce qui est normal parce que la plupart du temps, c'est légitime. Mais comme tout, il y a toujours une petite déviance dans toute bonne chose. Et c'est déjà arrivé, j'ai déjà traité des dossiers où est-ce que la personne reçoit un virement Interac l'accepte, donne le téléphone en échange ou peu importe l'objet. Donc là, c'était plus dans un optique où est-ce que je te vends quelque chose, pas j'achète, mais je vends. Et finalement, ben, le virement Interac avait été fait par le fraudeur depuis un compte qui n'était pas le sien. Et là, la personne qui se retrouve à avoir donné son téléphone contre une somme d'argent doit en plus rendre des comptes à sa banque en disant « Non, c'est pas moi qui ai fraudé le compte de l'autre personne. Il y a eu un intermédiaire là-dedans, puis moi aussi, j'en suis victime. » Donc, gros problème. Pour revenir à UPS, je veux parler d'une des possibilités, d'une des finalités, parce qu'effectivement, ça peut être vraiment plus stagé avec, comme tu disais, un faux camion, c'est intense, mais un faux livreur dire « Oh oui, le camion, il est dans la rue derrière, puis je suis venu à pied, là, là, là. » Mais là, les gens, et je parle de quelque chose de vécu proche dans la famille, quelqu'un que j'ai, t'sais, qui a été un peu plus au bout, qui a rien perdu, mais moi, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui arrive pour vrai. Parce que là, j'ai dit, si la personne, elle me paye bel et bien, il est où le problème? T'sais, elle est où la subtilité du stratagème? Ben, quand tu continues la communication avec la personne, avec le soi-disant fraudeur, au fur et à mesure que l'histoire se dévoile, on se rend compte que ce qui nous attend au bout de la ligne, c'est effectivement une arnaque. Parce que rapidement, la conversation devient un peu suspecte. On nous apprend qu'il y a des frais qui doivent être ajoutés et que la compagnie de transport, elle exige de payer les frais d'assurance pour voilà ce type de procédure. Donc, elle est là, l'arnaque, finalement. Il n'y a jamais aucun livreur qui va se pointer. C'est juste une arnaque de dire « faut que tu payes d'avance les frais ». Et l'acheteur, donc voilà, l'acheteur, il tente vraiment de nous convaincre qu'il doit ajouter ce montant à la facture totale, mais pour le moment, c'est vraiment juste pour la procédure. Mais ensuite, il va nous débourser en achetant, peu importe, en nous remboursant d'une certaine façon. Puis tout de suite après, bah, les faux acheteurs, il va vous demander voilà l'adresse postale, il va vous demander tout ça. Puis là, tu reçois un beau courriel, tu fais un beau petit paiement avec un beau petit lien pas sécurisé du tout. Et en fait, elle est là. L'arnaque, tu viens de payer, c'est des petits montants quand tu regardes, c'est peut-être des 20-30 dollars, c'est des petits montants, mais quand tu accumules ça par le nombre de personnes qui sont potentiellement victimes, c'est aussi vraiment vraiment un problème. Donc au final, après, t'entends plus jamais parler de la personne.
Ouais, et puis là, c'est l'autre aspect aussi, puis justement, c'est la honte, parce qu'on a déjà abordé ça dans un épisode sur les émotions, la honte qui est associée à cette fête à boire. Même puis le montant est petit. Il faut quand même le rapporter à la police parce que l'effet, c'est pas ton petit malheur qui est important, c'est le fait qu'ils ont fraudé des dizaines ou des centaines de personnes. Donc, cumulé, la fraude est immense. Mais comme nous, individuellement, on ne sent pas qu'elle est immense, ben on n'agit pas et on laisse ces fraudeurs-là continuer à agir en toute impunité et sans aucune conséquence légale qui pourrait être associée. Là.
Je suis totalement, totalement d'accord avec toi. Et ça, c'est quelque chose que je répète souvent parce que on a un défi quand on parle de fraude, quand on parle de cyberattaque, peu importe, c'est que les données statistiques qu'on a sont zéro représentatives actuellement de la réalité. Parce que on manque un petit peu peut-être de transparence parce qu'il y a la honte, parce qu'il y a tout ça, parce qu'il y a la réputation, effectivement. Donc, c'est toujours des problèmes. Il y a aussi le paiement en trop. Mais ça, c'est connu déjà, même avec les chèques à l'époque, où est-ce que je te fais un chèque plus gros que le montant que j'étais supposé, ou je t'envoie un virement Interac d'un montant plus gros que ce que j'étais supposé de faire. Là, tu dis, oups, je me suis trompée, est-ce que tu peux me renvoyer la différence? Donc là, bah, tu renvoies un virement Interac à la personne du 10 $ de différence et finalement, tu te rends compte que le premier virement, bah, c'est un faux virement, puis, ou alors c'est un chèque qui rebondit, peu importe, fait que tu te retrouves à avoir remboursé un montant. Ouais. Mais fait que les stratagèmes sont vraiment, vraiment nombreux pour le coup. Stratagèmes plus au niveau d'achat. Donc là, jusqu'à maintenant, c'était plus un exemple de je te vends quelque chose, puis là, tu fais venir un livreur, là, là, là. Mais en termes d'achat, il y a eu beaucoup durant le COVID, puis il y en a encore aujourd'hui, mais je veux parler de deux types de fraudes particulièrement que je trouve tristes, en fait, de par les émotions que ça vient chercher. La première, c'est la fraude des animaux de compagnie. Donc, le fraudeur, il offre un chat, il offre un chien, un lapin, mon petit lapin, à bas prix. Donc, c'est à bas prix ou c'est même gratuit. Puis là, il faut juste payer le shipping et il justifie généralement le don par exemple, je sais pas moi, mon proche, mon parent est décédé, je dois me départir de son animal de compagnie et moi, je peux pas en prendre soin. Et après quelques échanges, ben, on demande un virement Interac pour réserver le chien ou pour les frais de transport justement. Et tu revois jamais, enfin, tu vois jamais d'animal, il n'y a jamais eu d'animal. Moi, je trouve ça vraiment super triste pour en avoir traité aussi des dossiers comme ça. Tu le voyais, les virements Interact et le code, la réponse secrète, souvent c'était puppy ou peu importe. Et que moi, je trouve, qu'est-ce que t'en penses, celui-là? Moi, je trouve ça vraiment triste de toucher ce genre de choses comme émotion.
Ben, on revient toujours sur le fait que la fraude est associée à des émotions. Parce que c'est la façon qu'on a de faire descendre notre défense naturelle. C'est-à-dire que c'est là, ça vient nous chercher à un niveau où on dit « Ah non, mais c'est un animal, c'est pas grave. » Puis il joue toujours dans cette zone-là. Puis il nous amène à justement, ça va être moins vigilant. Donc à ce moment, puis là, celui-là est très triste. En soi, il y en a qui sont plus sur plus agressifs, mais lui, très triste. Mais il demeure que c'est un business, puis les fraudeurs n'ont aucun sentiment. Puis en plus, ce qui est probablement pire là-dedans, c'est que tout ça est mécanisé. Fait que généralement, il n'y a pas vraiment d'humains qui interviennent dans la communication. Tout est déjà préfait, tout est déjà pré-mâché. Les séquences de communication, il doit y avoir même un arbre de communication. Puis dire, si la personne dit ça, ben réponds ça. Fait que c'est automatique, ils font juste choisir automatiquement les réponses puis descendre ça. Puis si on va aller plus loin dans l'audio que ça peut comporter, c'est probablement sous-traité dans des pays où les gens ne savent même pas ce qu'ils font réellement, puis ils savent même pas qu'ils sont impliqués dans un état de fraude en plus. Bref, tout ça est très triste.
Je suis d'accord, vraiment d'accord avec toi. Je te rejoins beaucoup, beaucoup sur tout ça. La deuxième fraude dont je veux parler, typique aussi et qui existe encore beaucoup, beaucoup, c'est la fraude à la location. Le fraudeur offre un logement, il offre une maison, un chalet à louer et il demande un dépôt de réservation. Et souvent, lorsque la victime se rend à l'adresse lors du rendez-vous qui est convenu, ben, le logement ou la maison, elle n'est pas à vendre, elle n'est pas à louer. Si tu te retrouves face à quelqu'un qui te dit, ben non, ça n'a pas rapport, moi j'habite là puis je ne compte pas quitter. Et forcément, la personne après, elle est plus disponible, elle ne répond plus. Donc, il y a beaucoup dans les deux sens cette fraude-là, mais ça peut être vraiment problématique, surtout en ce moment, on le sait, mais en tout cas, moi, je suis plus à Montréal, puis on parle d'une crise du logement, etc. Donc, il y a plus de gens qui cherchent que de logements disponibles. Donc, ça crée ces situations où est-ce que les fraudeurs profitent pour dire « j'ai demandé des dépôts, même si c'est pas nécessairement « legit ». Donc, problème. Comment reconnaître tout ça? Comment détecter? On parle de profil Facebook à la base. Donc, on a quand même, tu sais, moi, là, je ressors avec mon petit chapeau plus cyber-enquêtrice, puis que j'aime ça aller fouiller un petit peu plus. Mais faisons des recherches sur le potentiel acheteur, potentiel vendeur, vérifier le profil. Tu sais, depuis quand est-ce qu'il a été créé? Cette personne-là, elle a combien d'amis? C'est quoi sa photo de profil? Est-ce que c'est un truc par rapport? Est-ce que, tu sais, on peut faire des recherches inversées? On en avait déjà parlé. Où est-ce que tu fais un clic droit quand tu es sur Google Chrome? Tu fais un clic droit, puis tu fais rechercher sur Google. Puis là, tu vois cette image-là, si elle apparaît ailleurs sur le web. Donc ça, c'est des super bons trucs aussi. Tu dis, si elle apparaît à plusieurs places, c'est que la personne, elle l'a volée puis qu'elle l'a utilisée pour faire sa propre photo de profil. Maintenant, c'est nouveau, mais avec Marketplace, on peut avoir des évaluations aussi. Donc, je pense qu'il n'y a aucune de souvenir. J'avais regardé dernièrement, si la personne a moins de 5 évaluations, ça ne s'affiche pas sur son profil, mais du moment où est-ce qu'elle en a 5 et plus, ben on va voir une des entre 0 étoile et 5 étoiles. Donc, on peut noter aussi la personne. Donc, je sais que ça donne au moins de bons indicateurs dans ce sens-là. Donc, faisons des recherches. Ensuite, on peut penser à, et on le répète, attention aux informations que nous, on communique. Tu te souviens, on avait parlé, Internet est un puzzle, on disperse des pièces de notre casse-tête un petit peu partout. Donc, évitons de communiquer des informations personnelles. Ces informations, elles peuvent être retournées contre nous et utilisées. Et là, on risque de plusieurs choses. On risque de se faire usurper notre identité, on risque de faire plein de choses dans ce sens-là. Et ça existe aussi des gens qui se font pirater leur compte Facebook et que le fraudeur, justement, fasse des stratagèmes comme ça. Parce que là, je me retrouve, j'ai fraudé un profil Facebook qui a plein d'amis, qui a plein de contenu, qui a une belle photo, tu sais, tout pour mettre en confiance et finalement, pas du tout. Toi, tu disais que c'était pas trop ta tasse de thé finalement d'acheter en ligne ou de vendre en ligne nécessairement. Si tu avais à le faire, est-ce que tu serais plus à le faire dans un espace physique ou à distance, envoyer ça par la poste? Qu'est-ce que tu penses de ces deux petites choses? Puis je vais poursuivre avec la recommandation que je pense en tout cas ensuite.
Oui, il y a plusieurs choses. Généralement, les échanges se font en présence pour les gens dans mon entourage qui le font. Ça assure une certaine confiance, un certain échange comme ça. La façon que l'argent est échangé aussi par des mécanismes qui sont peut-être plus fiables qu'un transfert. Là. Les transferts sont pas, comme tu mentionnais, ça peut être ça passe d'un faux compte ou des choses comme ça. D'ailleurs, plus, ça les ont avec un PayPal, par exemple, que des mécanismes qui sont plus robustes pour ce genre d'échange-là, puisque PayPal appartient à eBay, qui est une plateforme justement d'échange de cette nature-là, qui a mis en place ces études. Moi, j'arrive de cette culture eBay, parce que j'ai de cette, on va dire, de cette génération-là, où j'ai appris puis j'ai acheté beaucoup sur eBay à une époque. Donc, même si maintenant je ne le fais plus dans un marketplace, que je trouve que c'est du... Je suis moins à l'aise, je suis moins confortable parce que les symboles de confiance sont beaucoup plus difficiles à repérer. Comment on peut les opérer pour les voir? Puis, en plus, toutes les histoires d'horreur que j'ai entendues de conversations qui n'en finissent plus avec du monde, des acheteurs qui sont fâchés de choses bizarres ou qui ont des exigences, même s'ils sont légitimes dans leur démarche, des exigences qui sont démesurées ou ils comprennent pas le réel de ce que c'est. Fait que, bon, bref. C'est ça, mais c'est beaucoup de la recherche. C'est beaucoup de la recherche. Donc, beaucoup d'indicateurs de confiance. Là, tu mentionnais les reviews, mais même 5, c'est petit. En bas d'une centaine, c'est facile à en faire des fausses. Les photos de profil, oui, mais j'ai vu certains acteurs qui font juste comme reprendre leur face, la mettre sur quelqu'un d'autre ou échanger des informations comme ça. Donc, d'être capable de manipuler, c'est rendu très, très facile aussi maintenant. Ou même des photos auto-générées, on a des... Fait que de ça, ces symboles-là sont difficiles à être capable de saisir dans le monde virtuel. C'est pour ça que le monde réel est beaucoup plus intéressant, mais il y a aucun autre danger aussi dans le monde réel, que les gens vont venir chez soi, donc vont connaître notre demeure, notre adresse, nos informations. Fait que si on fait affaire à des fraudeurs ou des potentiels voleurs, on s'expose aussi. Donc c'est oui, dans un endroit physique, mais pas chez soi. Par la poste, si j'achète plus ou moins parce que je vais, j'ai pas nécessairement confiance. Là, tu l'as mentionné plusieurs cas, surtout dans des cas de paiement avec des mécanismes qui sont peu fiables. Effectivement, là, t'as plus un problème de voir l'objet par rapport à l'argent que t'as. Si t'as utilisé une méthode de paiement qui adapté à ce genre d'échange-là. Je reviens avec PayPal parce que c'est énorme, mais il y en a d'autres, mais c'est juste parce que je suis de cette génération-là, donc c'est le mécanisme le plus connu, que même des mécanismes de dispute, de résolution de conflits qui sont en place, qui sont négociés. J'ai eu à les utiliser dans certaines choses où des vendeurs n'ont jamais envoyé les choses, où j'ai effectivement utilisé le système de associé à PayPal, puis avec la résolution, puis toute la mécanique. Ça, c'est pas rapide. Ça m'a pris un mois et demi, je pense, à obtenir la réparation financière qui était associée, mais je l'ai quand même obtenue, puis c'était quand même un montant de plusieurs centaines de dollars. Donc, c'est quand même appréciable que ce mécanisme-là soit en place, puis de résolution de conflits qu'on peut avoir avec le vendeur ou dans l'autre cas, dans l'échéance, l'acheteur.
Moi, je trouve ça fantastique parce que tu nous amènes à un endroit et puis on ne s'est même pas consulté avant sur cette portion-là, mais tu vas exactement dans la direction où est-ce que je voulais aller par rapport au lieu de rendez-vous. Si on s'en va dans le monde physique, ben effectivement, il y a un peu le revers de la médaille et dire ça peut nous mettre à risque dans la vraie vie aussi. Donc, pour une transaction qui nécessite un rendez-vous, une remise en main propre, c'est ce que je vais privilégier effectivement plutôt que d'envoyer un UPS chez soi, mais en personne. Mais là, ça va être super, super important de rassembler les conditions idéales pour que cette transaction, elle se déroule sans embûche. Il y a tellement, tellement d'histoires. Puis j'ai eu une anecdote de quelqu'un, d'un ami très, très proche à qui quelque chose est arrivé, mais évitez le plus possible. Moi, je sais que je suis devenue un peu parano. Évitez les rencontres chez vous, surtout si vous habitez là pour vrai. Ouais, même des fois, il m'est arrivé des trucs vraiment... Ah, il n'est rien arrivé ensuite, mais sur le coup, il y a eu quand même quelque chose d'un peu bizarre. Puis les émotions, tu le sens. Tu le sens quand il y a quelque chose de bizarre. Si on achète, donc j'achète, je sais pas, moi je m'en vais chez quelqu'un, et ça c'est arrivé dans Hochelaga dernièrement, ben, il y a peut-être quelques mois. J'achète un iPhone. N'entrez pas dans la maison d'un inconnu non plus. Parce qu'il y a peut-être d'autres gens, puis il y a quelqu'un dans les médias justement que j'avais vu qui s'est fait agresser, qui venait pour acheter puis qui s'est fait agresser, qu'on lui a, il a faké que « oh, j'ai un iPhone à vendre, ok, j'arrive avec 300$ cash », puis là, la personne s'est juste fait dépouiller de son 300$ puis s'est fait vraiment battre, solide. Fait que n'entrez pas dans la maison des gens que vous ne connaissez pas. Cherchez plutôt un lieu public, un café, un magasin. S'il y a un endroit avec des caméras de sécurité à l'extérieur, c'est encore mieux. Et s'il y a un poste de police dans les environs, c'est vraiment l'endroit idéal, c'est de se rencontrer devant le poste de police, ça va. Mais j'ai deux petites anecdotes dans ce sens-là. La première, c'est, je le disais, quelqu'un de très proche, un ancien collègue en fait, à qui c'est arrivé, où est-ce que lui, dans son contexte, il avait un téléphone à vendre. Il avait un téléphone à vendre, et là, la personne qui arrive chez eux l'ont agressé. Comme il a sorti un couteau, puis il a comme récupéré le téléphone. Il n'y a pas eu de mais physiquement, mes amis n'ont pas été agressés, mais quand même, t'imagines l'état de choc dans lequel tu te trouves. Et tu dis, heureusement que c'est moi qui ai ouvert et que c'est pas ma blonde, bref. Donc, vraiment beaucoup d'émotions. Et tu parlais aussi de certaines personnes qui en profitent pour faire du repérage. Ça, c'est dans la famille aussi, quelqu'un qui... C'est qui le porte-à-porte, là, le porte-à-porte avec les cookies de ce monde, avec les boîtes de repas tout préparées. Tu sonnes à la porte, tu dis oui, est-ce que vous êtes intéressé par Cookit, peu importe, là je nomme Cookit parce qu'il y a juste eux qui HelloFresh, peu importe, il y en a plein. Est-ce que ça vous intéresse? Puis là tu dis ok, ben oui, oui, oui. Oh, est-ce que vous avez un moment? Ok, ben voilà, la personne elle rentre chez vous. Elle rentre chez vous et là elle examine tout. Elle examine qu'est-ce qu'il y a à voler potentiellement. Et puis là elle te renseigne sur ok, c'est quoi le meilleur moment pour venir vous livrer à la maison. Tu sais, à quel moment est-ce que t'es à la maison, à quel moment t'es pas à la maison. Donc bref, tu sais, c'est quelqu'un dans la famille à qui c'est arrivé cette expérience. Puis finalement, c'était pas des voleurs, mais lui, il avait comme le scénario inverse. Il dit en tout cas, ça serait vraiment un beau stratagème pour le faire parce que tu te renseignes sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ouais, choisir bien les lieux de rendez-vous puis éviter de faire rentrer des gens chez soi. C'est bizarre. Et de rentrer chez des inconnus aussi, ça peut nous mettre en danger. Et sinon, un autre truc, et je pense que c'est la dernière petite chose que je voulais donner comme astuce en tout cas, demander plus de photos. Tu sais, j'achète un article, ben je peux demander au vendeur des images supplémentaires, des photos des reçus, des photos dans un autre angle. Puis généralement, si c'est un faux article, il n'a pas nécessairement ces photos-là dans le même contexte, mais juste avec un angle différent. Donc, ça peut être un truc supplémentaire, même si c'est plus compliqué aujourd'hui de faire du montage non plus. Mais ouais, je pense que le mot d'ordre, c'est d'être vigilant plus, et surtout sur des plateformes qui sont... Tu sais, tu prenais l'exemple d'eBay, puis c'est quand même... encadré, puis ça a fait ses preuves. Marketplace, c'est vraiment direct entre particuliers. Il n'y a comme vraiment pas d'intermédiaire. Puis ne comptons pas sur Facebook pour nous dédommager ou pour nous aider dans ce cas-là. Eux, ils font juste prêter la plateforme pour ça, mais il n'y a pas vraiment d'intervention non plus. Donc, veux-tu ajouter quelque chose en lien avec tout ça?
Non, ben c'est un bon rappel de tout ce que j'ai mentionné avant, justement avec ces plateformes de confiance, les repères que tu peux avoir, d'être très prudent. Moi, j'ai un énorme malaise que les gens viennent chez moi. Enfin, naturellement, j'ai ça. Puis, c'est drôle que dans un univers où l'humain a un état de confiance, puis si on remonte dans le temps, disons, il y a 20 ou 30 ans, ce qu'on dit là ne fait pas de sens. C'est drôle comment les choses ont changé, mais il faut aussi comprendre, puis c'est ça que les gens ont peut-être de la misère à saisir, c'est que l'industrialisation du crime qui est associée à ça, l'étendue du ce que Internet donne essentiellement. Puis tu sais, t'as des fraudes avec des gens qui sont ailleurs dans d'autres continents ou tu sais qui font ça, ils font juste ça, eux autres sont comme une espèce de centre d'appel de fraude, puis ils font juste mécaniser tous ces éléments-là. Fait que c'est un peu malheureux face à ce genre de choses-là. Qu'on fait face. Pour ça, puis en plus, ça, j'aime beaucoup le modèle de eBay qu'on construit sur le fait que tu établis ta confiance en tant que vendeur et en tant qu'acheteur, parce que tu as une cote des deux côtés qui se construit. Donc, de ce moment-là, cette confiance-là et fait qu'on a développé un système qui favorisait la confiance que Marketplace n'a pas autant mis d'emphase dessus, dans lequel il faut être plus prudent. Donc, le fardeau est plus sur nous. De devoir être vigilant par rapport à ce qui se passe. Mais tu sais, il y a plein d'autres plateformes. C'est pas la seule plateforme qui fait ce genre de choses-là. Il y en a qui sont, je pense, le Petit Coin en France qui est un équivalent. Puis les PAC au Québec, ça existe encore. Je sais même pas si ça existe encore, cette plateforme-là. Ouais, ouais. Qui sont aussi des équivalents, mais qui sont pas reliés fortement avec un fournisseur plus gros. Puis c'est aussi l'illusion que Marketplace est associé à Facebook, mais Facebook n'est qu'un intermédiaire dans ce contexte-là. Fait que la marque ne donne pas la confiance dans l'endroit non plus. Ça aussi, ça peut tromper un peu les gens. C'est pas mieux que d'acheter dans une annonce dans un journal pour les plus vieux ou acheter sur les packs là, ou le petit coin qui sont des structures plus récentes mais technologiquement ben moins récentes que Marketplace. Fait que c'est un peu dans cet univers-là. Puis toutes les choses, là, tu le mentionnes dans le marché, beaucoup de on pourrait dire des red flags, là, si on utilise le terme plus anglophone, là, des drapeaux rouges ou des choses qui sont dangereuses, puis il faut se méfier parce que on peut malheureusement se faire avoir sans qu'on s'en rende compte.
Pour finir sur une note humoristique, tu parles du petit coin. En France, c'est le bon coin. Le petit coin, ce serait bizarre, mais...
Ouais, non, mais bref, il est tôt le matin. Voilà.
C'est parfait, ça nous permet de finir sur une belle petite note avec plein d'émotions un peu plus positives dans cette thématique. Moins sexy en tout cas. Merci une fois de plus de m'avoir invité puis de me permettre de parler de tout ça. Je pense qu'on n'en parle pas assez et tu me donnes une belle tribune, je te remercie. Et
merci de contribuer, c'est très intéressant justement de passer les messages au plus grand nombre de ces éléments-là parce que plus on transmet le message aux gens, moins ces fraudes-là vont être touchées, au moins notre entourage, c'est pas le plus grand nombre possible justement de se défendre adéquatement contre ça. Merci.
Merci à toi.
Bonne journée.
Toi aussi.